C'est quoi ça, la domesticité ?
Domesticité, pardon, excusez-moi. Dès que vous mettez de la hiérarchie et de l'argent, il faut faire attention. Ce que je vous dis, si vous parlez d'une femme de ménage, la femme de ménage, c'est une employée. Est-ce que vous, là, quand vous faites votre boulot pour France Inter, vous le faites bien pour quelqu'un ?
C'est Mathieu Noël et on a 20 minutes pour tout comprendre à la domesticité, ou plutôt aux domesticités, car il y en a plusieurs. À mes côtés, Manon Mariani, Quentin Lui et Cyril Lacarrière. Bonjour Alizée Delpierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Alizée, vous êtes sociologue, vous enseignez dans plusieurs grandes écoles et universités. Vous êtes l'autrice de « Servir les riches » paru il y a 2 ans, pour le livre pour lequel on vous avait déjà reçu ici. C'était « Les domestiques chez les ultra-riches ». Et vous venez donc de sortir un nouvel essai sur la question « Les domesticités » aux éditions de la Découverte. On va voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les ultra-riches qui ont ce qu'on appelle plus des domestiques, mais des aides à domicile. Alizée Delpierre, pour votre premier livre, vous aviez donc enquêté sur celles et ceux qui travaillent pour les gens très fortunés, mais finalement, la domesticité, c'est un phénomène beaucoup plus vaste que ça.
Alors oui, effectivement, en fait, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale du travail, qui écrit en fait des rapports réguliers sur la domesticité à travers le monde, on compte plus de 75 millions de travailleurs domestiques en fait à travers le monde, sachant qu'en fait cette estimation est très sous-estimée justement, puisque
parce qu'il y a une partie au black, j'imagine.
Voilà, il y a une grande partie de ces emplois qui sont au noir dans l'économie informelle, qui statistiquement est très difficile à palper, et donc cette estimation est l'estimation minimale, on va dire.
On va en parler pendant l'émission, il y a une forme parfois d'exploitation dans certains cas. Elle est plus violente chez les ultra-riches ou chez les personnes lambda ?
Alors, c'est une bonne question, parce qu'on peut dire que la distance sociale, et donc la violence symbolique qui peut être ressentie par cette distance sociale entre le patron et le domestique, est plus importante chez les très riches, vu qu'on a affaire à vraiment des gens qui sont des millionnaires, etc., face à des domestiques qui sont issus des classes populaires ou des petites classes moyennes. Mais en termes de conditions de travail, on a des conditions de travail qui peuvent parfois être meilleures, entre guillemets, chez les ultra-riches, au sens du salaire, un salaire plus élevé, etc. Le cadre de travail, etc. Que dans des familles de classe moyenne qui paieraient même pas au SMIC, et encore au SMIC quand on est dans un contexte français, européen.
Alors Cyril, d'où ça sort la domesticité ?
Excellente question Mathieu, et je vais y répondre. Ah. Mais d'abord, je voulais dire à quel point vous êtes une source d'inspiration pour moi. Quel point votre rigueur intellectuelle ne cesse de me surprendre. Avec vous, c'est boulot, boulot, boulot,
c'est vrai.
Jamais un écart, jamais de tricherie. Ce que j'aime chez vous, c'est que jamais il ne vous viendrait à l'esprit de rediffuser un Zoom Zoom test, par exemple,
jamais.
Pour éviter d'avoir à en écrire un nouveau.
Quelle idée.
Et c'est dans cet état d'esprit que je suis aujourd'hui. C'est ce qui m'inspire. Alors Mathieu, quand vous me demandez
d'où ça sort la domesticité,
voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Des domestiques qui servent les riches, d'où ça sort ? Eh bien, de la nuit des temps, mon brave Mathieu. On se le disait d'ailleurs, samedi soir, chez vous, lorsque votre personnel nous servait de cet excellent cheval blanc 82 dont vous veniez de faire rentrer 12 caisses.
Ah, ça n'existe pas.
On a bien ri avec vos amis, Bruno Solo, Daniel Cohen et Armand Dalyr.
Daniel Cohen, non mais pas !
Mathieu, vous avez des défauts.
On touche pas aux amis !
Mais vous avez des défauts. Mais il n'y a pas à dire, vous savez choisir votre personnel de maison. Néanmoins, Alizée Delpierre, vous m'avez mis dans l'embarras. Car voyez-vous, si le thème de votre livre est passionnant, il ne se prête pas à cette rubrique phare de cette émission, non moins phare, de la grille d'Inter. Car oui, l'exploitation de l'homme par l'homme, des pauvres par les riches, et l'exploitation des femmes par les hommes dont vous parlez, eh bien ce n'est pas une histoire nouvelle, elle est tellement pas nouvelle qu'on ne peut pas la dater. Il n'y a pas de moment dans l'histoire où ça a commencé. Ah oui, est-ce que la domesticité est-elle entrée dans la vie de monsieur et madame tout le monde ? Qui sont les domestiques ? Comment ce travail a été légalisé et encadré ? Comment servir les gens est devenu un job comme un autre ? Est-ce que le DCS, c'est comme le bon vin, c'est encore meilleur avec l'âge ? Pourquoi est-ce que cette domesticité accentue les inégalités sexuées et raciales ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Alizée Delpierre, nous venons d'assister à une des plus grandes entourloupes de l'histoire de l'audiovisuel après la fausse interview de Fidel Castro par PPDA. On va néanmoins essayer d'enchaîner. Parlons déjà du mot en lui-même et de sa signification. Qui parle encore de domestique aujourd'hui ? Franchement, personne. Le mot, il est devenu quand même très politiquement incorrect.
Alors, c'est devenu politiquement incorrect et d'un point de vue institutionnel, on parle davantage de travail domestique. Ça a fait l'objet de luttes, d'ailleurs, des domestiques elles-mêmes qui ont revendiqué le fait qu'on mette le mot travail pour qu'il soit reconnu, justement, comme un travail qui, mérite salaire, mérite protection sociale, etc. Ensuite, l'intérêt, on va dire, sociologique pour un chercheur de parler de domesticité, c'est aussi de se réapproprier un terme qui est désuet, pour pouvoir aussi sortir de l'ombre des rapports de domination, en fait, et des inégalités
qui demeurent
et qui sont toujours présentes. Alors que quand on parle de travail domestique ou de service à la personne, comme c'est le cas en France, et ben ça invisibilise aussi ces rapports-là et la réalité d'un travail qui a pour point commun, dans toutes les formes de domesticité qui existent, de se dérouler au domicile de l'employeur, et donc qui est un lieu un petit peu particulier.
Mais
qui
où
n'est
y a
pas forcément adapté aux salariats.
Oui, il y a vraiment une asymétrie entre l'employeur et l'employé. Ça doit être compliqué de mener une enquête pareille, parce qu'il y a quand même des domesticités, il y a des boulots qui n'ont rien à voir au sein de la domesticité.
Alors oui, voilà, alors avec ce terme, j'ai voulu regrouper des réalités de travail qui sont très différentes, mais qui ont pour point commun de s'exercer au domicile des autres et de prendre en charge le travail que les féministes ont appelé le travail reproductif, celui qui consiste à reproduire les êtres humains, c'est-à-dire préparer à manger, faire le linge, faire le ménage, s'occuper des enfants, etc. Et alors, c'est sûr qu'entre l'aide à domicile qui travaille en France pour une personne âgée, la domestique à temps plein philippine qui travaille aux Émirats, bah, y a des réalités de travail qui sont très différentes en termes de tâches, en termes de conditions de travail, etc. Mais il y a aussi des choses qui se retrouvent dans notamment le rapport de subalternité qu'on peut avoir au patron, dans cette injonction aussi à faire famille, à faire comme si finalement la domestique ou l'aide à domicile était un peu, pas vraiment notre employé, mais une personne qui fait partie de notre famille. Voilà, et qui invisibilise la dimension aussi économique, en fait, de cette relation.
Et pour vous, tout ce qui est... ça m'évoque une campagne de pub où on voit des femmes de ménage qui disent « j'aime faire briller mon métier », genre elles ont l'air super contentes. Tout ça, ça peut paraître très positif quand on ne réfléchit pas trop, qu'on voit ça de loin, mais en fait, ça invisibilise aussi. On oublie le rapport dominant-dominé et on se dit « oui, c'est super, en fait, c'est le service à la personne, c'est plus de la domesticité ».
Ben exactement, voilà, en fait on invisibilise ça, alors ça veut pas dire que toutes les personnes qui travaillent dans ces emplois n'aiment pas ces emplois, sont maltraitées, enfin pas du tout, mais néanmoins on le sait statistiquement par des données, par des enquêtes sociologiques, par aussi des données économiques, que les emplois de la domesticité et des services à la personne sont des emplois très précaires et très mal payés.
Nounou, femme de ménage, assistant personnel, déclaré ou pas, les employés de maison ne sont peut-être plus des domestiques, mais ils n'ont jamais été aussi nombreux dans le monde. On zoome sur le concept de domesticité avec vous, Alizée Delpierre. C'est d'ailleurs le nom, hein, les domesticités, de votre nouveau livre. C'est quoi les différences majeures que vous avez pu observer dans le traitement des employés domestiques à travers le monde, par exemple en termes de conditions de travail, de salaire, d'exigence, de profil d'employeur? J'imagine qu'il y a une grande hétérogénéité.
Oui, effectivement, il y a une très grande hétérogénéité déjà en termes de conditions de travail et d'accès au droit du travail et à la protection sociale. Il y a des pays où il n'y a pas de droit du travail les domesticités. Bah, quand on regarde les pays du Golfe, les Émirats, c'est toujours pointé du doigt, en fait, année après année, par l'OIT, par l'Organisation internationale du travail, comme étant des pays qui ne progressent pas en termes de droit du travail. Parenthèse, c'est le cas aussi pour les autres travailleurs dans ces pays-là aussi. Donc la domesticité ne fait pas vraiment office d'exception par rapport aussi à un marché du travail qui est très peu protecteur. Alors que dans d'autres pays, il y a quand même eu des mouvements de travailleuses domestiques qui ont abouti à une forte syndicalisation, à l'inscription dans le droit national des prérogatives du droit international qui somme les États membres d'adopter des mesures en fait pour protéger les domestiques. Mais dans beaucoup de pays, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le droit qui protège le travail domestique relève souvent d'un droit qui est un peu à part que le droit du travail qui protège les autres salariés. Et c'est le cas en France. En fait, en France, ce qu'on appelle les services à la personne, donc les emplois de la domesticité en France, sont cadrés par des conventions collectives qui donc ont un statut juridique un peu à part du droit du travail qui s'applique pour la majorité des emplois salariés. Donc c'est assez intéressant en fait parce que historiquement, c'est aussi lié au fait que les domestiques ont acquis très tardivement par rapport aux autres employés, aux autres salariés, des droits. Et qu'aujourd'hui encore, on considère que c'est un travail qui n'est pas tout à fait le même qu'un autre et qui nécessite des aménagements particuliers.
Est-ce que dans le monde, à l'échelle mondiale, il y a une avancée dans les droits des gens qui travaillent à domicile? On entend souvent parler, et je faisais des blagues là-dessus sur Cyril en début d'émission, confiscation de passeports, des papiers d'identité, des titres de séjour, parfois tout ça, c'est juste des clichés d'un autre temps, où ça existe encore des gens qui confisquent le passeport d'un employé de maison?
Oui, bien sûr. Ça existe, c'est très fréquent dans certains pays. Si on prend l'exemple des domestiques philippines, hein, qui sont très très nombreuses à travers le monde, parce que l'État philippin investit massivement dans l'exportation de femmes travailleuses domestiques.
Ah, c'est une politique d'État.
C'est une politique d'État, hein, qui consiste à former, en fait, des femmes qui parfois sont même très diplômées, hein, qui peuvent être infirmières, etc., dans leur pays d'origine, mais qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui choisissent de migrer pour gagner plus d'argent en tant que domestique, donc l'État les forme, et celle des contrats avec d'autres pays, comme par exemple les Émirats, mais aussi le Canada, etc. Et dans ces contrats de travail, eh bien, les domestiques sont obligés de travailler pendant une durée minimale, 2 ans ou 3 ans, au service d'un même employeur. Et on remarque par des enquêtes de terrain que ces employeurs ont tendance à confisquer aussi les passeports, les papiers de ces femmes-là.
Mais justement, vous parlez des femmes, mais sur les 75 millions de travailleurs domestiques dans le monde, 75% sont des femmes. Comment on l'explique? C'est aussi un milieu en fait très conservateur où en fait on prend des femmes pour être femmes de ménage, pour être nounou. On est encore là-dessus?
Alors, on est encore là-dessus parce que, eh bien, la domesticité, comme finalement tous les univers professionnels, s'inscrit dans une division sexuée, en fait, du travail. Et il y a encore cette représentation selon laquelle, eh bien, les femmes sont naturellement prédisposées à faire les tâches domestiques. Et donc, en fait, du point de vue des employeurs, on va préférer recruter des femmes pour être nounou.
On se dit qu'elle est naturellement plus compétente.
Parce qu'elle est naturellement plus compétente. Mmh. Hein, ça renvoie à toute la naturalisation des compétences de maternité des femmes. Qu'elles sont plus dociles aussi, hein, plus facilement soumises, obéissantes, etc. Et puis, bah, comme sur le marché, de toute façon, la main-d'œuvre est entièrement féminine, eh bien, voilà, on recrute des femmes. Donc, c'est vraiment la domesticité, voilà, un secteur très féminisé qui est révélateur, de façon plus générale, de la division aussi sexuée du travail qu'on a dans le monde.
Et en termes de répartition des tâches, on est d'accord que donc aux femmes, le travail lié plutôt aux soins à la personne et à l'entretien de l'intérieur, aux hommes, les travaux extérieurs est plus qualifié.
Voilà, exactement. Dans les rares cas de domesticité masculine, alors ça peut exister, alors ça existe chez les ultra-riches qui ont plusieurs domestiques où les hommes prennent en charge les tâches les plus nobles de supervision, ou alors les tâches d'extérieur, être chauffeur, ou je sais pas, faire parfois un peu les courses, sortir les poubelles, etc. Et puis dans certains pays d'Afrique notamment, il y a des pays africains où demeure en fait une domesticité masculine quand même assez importante. C'est par exemple le cas du Burundi, avec 20% de domestiques qui sont des hommes, qui sont toujours appelés des boys, en fait.
Ah oui, il y a toujours des boys,
voilà,
en Afrique,
on les appelle les boys, et alors eux, les boys, alors ils peuvent être assez polyvalents, hein, en fait, mais ils s'occupent surtout d'entretenir l'extérieur de la maison, etc.
Pour parler de la domesticité, Quentin, vous êtes allé interroger les gens dans la rue.
Je me dirige vers Beaugrenelle. Pourquoi?
Ah oui,
parce que j'ai cassé mon matériel, j'étais pour ainsi dire complètement à l'arrêt. Je traverse le pont en face de la maison de la radio et j'arrive dans ce quartier moderne, aux immeubles vitrés. J'arrête cette dame qui s'abrite avec une amie sous un parapluie.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom?
Antoinette.
Antoinette, vous avez quel âge?
Oh, 20 ans. À peu près. Oh, les 60.
Antoinette est une instite à la retraite. Je lui demande de lire le mot qui nous intéresse aujourd'hui.
Domesticité. Que dire? Docilité, esclavage,
aliénation.
Domestique, aliénation, patronat, système en place, Macron.
Ah ouais. Vous avez déjà eu une femme de ménage, vous?
Moi? Non. Je suis ma femme de ménage.
Vous en pensez quoi, alors? Vous, ça vous?
Ah, je suis contre, moi.
Donc, quelqu'un, un ami que vous connaissez qui vous dit « j'ai une femme de ménage », vous vous dites « ah, pas cool ».
Il y a domestique et domestique. Hein.
Ah, voilà, domestique et domestique. Le bon employeur et le mauvais employeur. Sur cette réflexion, je croise la route de Michel. Veste en cuir, look de vieux rocker, cheveux qui tombent sur les épaulettes et lunettes rectangulaires.
Domesticité, pardon, excusez-moi. C'est le fait d'être domestique. J'aime pas le terme, de toute façon. J'aime pas le terme parce que domestique, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de domination que j'aime pas.
Est-ce qu'il n'y en a pas une indirecte?
Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la hiérarchie.
Michel m'explique qu'il a eu lui-même une femme de ménage déclarée, avec qui il entretenait une très bonne relation. Il partageait même des cafés de temps en temps, mais...
Dès que vous mettez de la hiérarchie et de l'argent, il faut faire attention.
Est-ce que c'est bien de mettre de la hiérarchie dans la maison?
On n'a pas le choix. Dans la maison? Parce que je vous dis, si vous parlez d'une femme de ménage, la femme de ménage, c'est une employée. Est-ce que vous, là, quand vous faites votre boulot pour France Inter, vous le faites bien pour quelqu'un?
Cyril Lacarrière.
Cyril Lacarrière. Quand vous le faites votre travail, vous le faites pour quelqu'un, il y a une hiérarchie dans toutes les sociétés. Ce qu'il faut, c'est que la hiérarchie reste. Faut que tout le monde se respecte, ça, un point, c'est tout. Il n'y a pas de notion de domination, il y a une question de partage de travail, c'est tout.
Ah, le problème, c'est que je fais aussi le ménage chez Cyril. Aujourd'hui, il faut que ce soit propre avant 18h. C'est toujours compliqué. On verra ce qu'en diront les prud'hommes de tout ça. Elle traverse le quartier, surtout animée par un grand centre commercial, et c'est juste à côté de l'entrée que je l'arrête.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom ?
Leïla.
C'est quoi votre métier à vous ?
Je suis caissière actuellement.
Je lui parle de notre mot du jour et je lui montre le livre de notre invité.
Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire le travail des personnes
pour les autres.
D'accord, ok. Ok. Il y a des pays où il y a des abus. Hein. Ça, je le sais. Je me suis un peu intéressée au travail des domestiques, notamment ceux des étrangers, les Africains subsahariens, les ceux venant d'Amérique du Sud. Ils souffrent aussi, certains. Ils sont destitués de leurs droits. Quand on prive de quelqu'un de son passeport et qu'on lui fait une pression sociale, psychologique, en gros, désolé, tu travailles pour moi, tu fermes ta gueule, sinon tu dégages en usant des faiblesses de la personne. Ça, c'est une malhonnêteté, une méchanceté.
Elle me confie que la France fait beaucoup d'efforts pour encadrer ce travail, qu'on a de la chance. Je lui demande si elle a autour d'elle des personnes qui travaillent chez les autres.
Des connaissances, oui. Des connaissances de la même origine que moi. Je suis maghrébine et ça va, ça se passe bien pour eux, mais le seul point récurrent qui revient, c'est le salaire. Entre le SMIC, voire un peu plus bas que le SMIC. Une amie à moi, elle est épuisée psychologiquement par rapport à ça.
Je salue Leïla pour m'arrêter devant cette autre femme. Elle s'appelle Edith, elle est assistante de direction dans une entreprise du quartier. Je lui fais lire...
Domesticité. Alors oui, il y a les gens qui travaillent chez les gens, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, c'est ça.
Alors, c'est les gens qui travaillent chez les gens, donc forcément, on ne les voit pas, ces personnes.
C'est ça, ils sont aussi invisibles.
Oui, ils sont invisibles. Et ils sont invisibles, je pense, au niveau administratif, au niveau d'un tas de choses. Mais bon, c'est des gens aussi qui n'ont pas le choix, je pense.
Je lui fais lire la quatrième de couverture de votre livre. Et ce chiffre, estimé par l'Organisation internationale du travail, 100 millions de domestiques à travers le monde.
Si vous me dites qu'il y a 100 millions, je pense qu'il y a plus, parce qu'ils ne sont pas déclarés. C'est des gens, comme vous dites, invisibles. C'est des gens invisibles.
Ça vous rend triste ?
Oui. Parce que c'est des gens qui ne comptent pas, alors que, mine de rien, s'ils ne sont pas là, les gens, ils sont perdus. Hein. Et c'est des gens qui sont essentiels et qu'il faut respecter, qu'il faut défendre. C'est des gens humbles. Ils ont une place et ils ont toute mon estime. Ils ont toute mon estime et ma considération.
Bonne journée.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Ce n'est pas le mot le plus simple à aborder dans la rue, car il provoque souvent de la colère et le constat d'un monde à deux vitesses rempli de disparités, ceux qui font et ceux qui délèguent, avec une tendance irréversible et lisible, la domesticité rend invisible.
Et ils sont invisibles et pourtant ils sont partout, pas que chez les ultra-riches, pas que chez Cyril Lacarrière. On continue de zoomer sur les domesticités avec vous, Alizée Delpierre. Comment la sociologue que vous êtes réagit à ces témoignages qu'on vient d'entendre ?
Ben, c'est intéressant parce qu'il y a le mot, on voit que déjà les gens comprennent le mot, hein, c'est pas forcément évident, hein, parce que quand on parle de domesticité, on peut se demander ce que c'est, donc je suis assez surprise en fait. Et puis il y a tout de suite ça renvoie tout de suite à de mauvaises conditions de travail, à un rapport de domination, en fait, qui rend pas forcément à l'aise, et à un discours qui a tendance à diviser, enfin à distinguer les domestiques qui travailleraient aussi ailleurs d'une certaine manière et qui seraient dans des situations d'esclavage, d'exploitation, et ceux qui seraient en France, qui seraient quand même un peu mieux lotis que les autres. Et alors, c'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où, comme le disait cette dame, bon, enfin voilà, il y a un droit en France, c'est encadré, etc. Mais c'est en partie faux parce que, comme le disait une autre personne, ils gagnent même pas, il ne gagne même pas le SMIC ou un SMIC, et très souvent en fait travaillent aussi à temps partiel, en fait, ont beaucoup de mal à avoir des équivalents temps plein, et donc en fait gagnent très 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 peu à la fin du mois. Hein. Déjà à voir quand on est aide à domicile ou femme de ménage à temps partiel pour plusieurs employeurs. Mmh. Gagner déjà 800 euros par mois relève de l'exploit.
Parce qu'il y a des heures par-ci, des heures par-là, des temps de transport qui ne sont pas rémunérés.
Qui ne sont pas rémunérés, tout à fait. Et y compris quand on passe par des agences de services à la personne, comme on en a parlé tout à l'heure, qui font ces merveilleuses affiches dans le métro notamment.
Qui permettent aux employeurs de défiscaliser.
Et qui finalement génèrent un profit très important entre ce que vous, employeur, vous payez et ce qui tombe dans la poche de la femme de ménage en question.
On parle de O2, Shiva,
Oui, exactement, O2, Shiva, etc. Et ben donc, non seulement elles ne rémunèrent pas les temps de trajet, mais en plus, elles ne font pas toujours attention aux lieux dans lesquels lesquelles vont travailler dans une même journée les femmes de ménage. Donc en fait, il y a des femmes de ménage qui peuvent travailler au nord de Paris, au sud de Paris, en banlieue, dans la même journée.
On en parlait tout à l'heure hors antenne, mais est-ce que les livreurs Deliveroo, les chauffeurs Uber, ça rentre dans cette forme de domesticité ou est-ce que c'est une nouvelle forme encore de domesticité ?
Alors c'est intéressant. Alors c'est pas de la domesticité au sens où c'est pas un emploi salarié au domicile de l'employeur, puisque quand vous commandez votre repas sur Deliveroo, vous ne salariez pas le livreur. En l'occurrence, il est salarié par la boîte, par la plateforme. Mais pour moi, il y a un continuum en fait entre le majordome à temps plein des très riches, la femme de ménage et le chauffeur Deliveroo. Et les services qui sont délivrés par les livreurs sont une forme d'externalisation à outrance du travail domestique, ou qui est démocratisé, parce qu'il n'y a pas que les classes supérieures qui se font livrer par Deliveroo, il y a aussi des classes moyennes et des classes populaires. Hein, les premières enquêtes sociologiques menées là-dessus le montrent. Et puis, en plus, vous ne vous embêtez pas à être l'employeur, en fait.
Vous n'avez même pas les tracas.
Voilà.
Les domesticités, c'est le titre de votre dernier livre, Alizé Delpierre. Regardons maintenant la question de la domesticité, spécifiquement en France. Dans votre livre, vous évoquez cette notion de proximité et de distance à la fois. Les domestiques sont parfois très proches des familles pour lesquelles ils travaillent, mais en même temps, ils vivent dans des réalités complètement différentes. C'est quand même un paradoxe.
Oui, c'est un paradoxe. Alors, ils sont proches physiquement de leurs employeurs, puisqu'ils travaillent dans leur intimité.
Mais il n'y a pas de lien qui se crée, parfois d'amitié
Alors, il y a des liens, justement, qui se créent. Alors, tout dépend aussi de la forme de l'emploi. Quand c'est des emplois à temps partiel, il y a parfois... Alors, il y a des liens qui se créent, mais qui sont quand même assez éphémères, assez courts. Très souvent, on a des employeurs qui voient très peu, en fait, leur femme de ménage, mais qui entretiennent des liens, on va dire, un peu plus numériques, en leur envoyant, des textos, en l'appelant pour lui donner des consignes, etc. Donc voilà, c'est un peu différent d'une domesticité à temps plein, ou par exemple d'une nounou, entre guillemets, qu'on a à temps plein, qu'on va voir très souvent, à qui on va confier ses enfants, et donc avec qui on va nouer en fait davantage de liens, avec qui on va pouvoir discuter, parler, échanger. Et alors, il n'y a pas que de l'hypocrisie en fait dans le lien émotionnel et affectif qui peut se créer entre employeur et employé. Il ne faut pas penser que tous les employeurs qui disent que justement l'employé fait partie de la famille, que c'est forcément de l'hypocrisie, que c'est pas vrai, etc. Il y a vraiment, et moi dans des enquêtes j'ai vu ça et des collègues aussi l'ont remarqué, une sorte de liens qui se tissent de façon un peu évidente, parce que dès lors que vous avez quelqu'un qui connaît un peu toute votre vie, qui est chez vous, et donc a accès quand même à ce qui est le plus intime en fait de vous, hein, que ce soit vos petites culottes ou vos feuilles d'impôt qui peuvent traîner partout, et ben en fait il y a une proximité qui se crée. Voilà.
Et est-ce qu'il y a une différence de comportement vis-à-vis des employés selon le profil social des employeurs, qu'ils soient par exemple plus ou moins riches, que ce soit un homme ou une femme, une famille, qu'est-ce qui change ?
Je dirais pas qu'il y a une différence de comportement selon les classes sociales. Alors, ce qui change, c'est chez les employeurs très très riches, il y a une forme de savoir-faire vis-à-vis de ces domestiques, et donc on ne culpabilise pas du fait d'être employeur, d'embaucher des gens à son service.
C'est naturel presque.
C'est presque naturel. Alors ça, c'est surtout pour l'aristocratie, qui elle-même a grandi avec des domestiques, etc. Alors que chez les classes moyennes, qu'on recourt justement à tous ces services à la personne, à temps partiel, etc., il y a beaucoup plus de malaise et de difficulté à se sentir employeur chez soi. Et donc, une difficulté à assumer, de déléguer une partie des tâches domestiques à autrui. Et donc, parfois, une difficulté à aussi dire quand il y a un problème. Et donc moi j'ai rencontré beaucoup aussi dans une enquête qu'on a fait avec des collègues sur le travail des femmes de ménage et leurs employeurs de classe moyenne, et ben il y avait beaucoup de gens qui nous disaient moi en fait quand ma femme de ménage casse quelque chose, j'ose pas lui dire, je veux pas la contrarier, je suis mal à l'aise. Alors que chez les très riches, on n'a pas
la question pose pas. Ouais. Voilà. Une question, vous avez cité les classes moyennes qui seraient employeurs de domestiques, entre guillemets, enfin de service à la personne, service à domicile. Les classes moyennes, enfin bon, c'est toujours très flou.
Oui,
hein, mais enfin, je crois que le salaire entre 2000 et 2500 euros, c'est ça les classes moyennes, 2500 par là,
oui,
à peu près.
Oui, selon
est-ce que ces gens-là, à 2500 euros par mois, ils peuvent avoir des femmes de ménage? À partir de quel niveau de revenu on a aujourd'hui une femme de ménage en France?
Alors, en France, on a aussi des classes populaires, voire des pauvres qui ont des domestiques qu'ils ne payent pas. Hein. Ça, c'est une partie dont on parle jamais. Il y a chez des classes populaires des personnes qui ont recours à de la main-d'œuvre gratuite. Alors, c'est notamment, on a eu des enquêtes qui ont été faites, par exemple, sur des personnes originaires de pays d'Afrique de l'Ouest qui font venir, en fait, des petites nièces de leur pays d'origine. Ça s'appelle le confiage, qui travaille chez leurs oncles et leurs tantes en tant que petites bonnes, en fait, et elles qui ne sont pas payées. Donc, c'est tout de suite pour dire que déjà, on peut avoir des domestiques sans les payer.
Mais en contrepartie, l'éloge.
En contrepartie, l'éloge, mais quand c'est des jeunes filles de 14 ans qui sont censées être scolarisées, voilà, on est dans des situations, là, pour le coup, d'exploitation totale.
Et les jeunes filles au père ?
Alors, les jeunes filles au pair, c'est une forme d'exploitation aussi, parce que c'est des contrats, en fait, hein, qui sont faits notamment par des agences, etc., où les jeunes filles ne sont pas payées sous prétexte qu'elles ont des avantages en nature, comme le logement, notamment, etc. Et chez les classes moyennes, pour rejoindre cette question, en fait, il y a l'État qui aide, en fait, et qui encourage de plus en plus,
c'est vrai.
Depuis les années 80.
On a 80, des aides pour la petite enfance, notamment.
Voilà,
pour
et qui encourage, en fait, au recours à des services à la personne. Et quand vous avez recours à une femme de ménage aujourd'hui, vous pouvez ne payer que 50% de son salaire parce que l'État vous offre, en fait, les 50% restants.
Et si on s'arrête à la France, pour finir là-dessus, la domesticité, à une époque, n'avait peut-être pas cette image négative, parce que quand on était domestique, on entrait dans une maison, parfois pour une vie, enfin, on y restait, il y avait une stabilité de l'emploi. Aujourd'hui, avec l'ubérisation du secteur, on est non seulement, il y a toujours ce lien dominant-dominé, mais en plus, on n'est absolument pas sûr de rester dans cette famille pendant longtemps.
Alors non, il y a beaucoup de turnover, en fait, dans ces métiers-là. Hein. C'est des métiers, du coup, parce que métier très précaire aussi, métier où finalement, les employeurs changent, veulent avoir une femme de ménage pour 2 ans, puis ensuite s'en séparent, etc. Donc il y a beaucoup de changements. C'est des métiers qui viennent souvent en seconde carrière, c'est-à-dire des femmes qui commencent à entrer dans la domesticité après 40 ans, etc. Voilà, après avoir eu des enfants notamment, et qui se mettent à travailler, à générer un petit revenu. Mais il ne faut pas penser que historiquement, les domestiques passaient toute leur vie chez les employeurs.
Ah pardon, c'est un cliché que j'avais, j'imaginais. Parce que j'ai trop vu Downton Abbey.
Non mais pas du tout.